Les données actuelles de séquençage des génomes, des humains modernes et des humains archaïques aussi, sont à peu près complètes. Donc sur les 30 000 substitutions non neutres, c'est-à-dire des substitutions qui introduisent des modifications dans la séquence, et les différentes insertions et délétions qui sont fixées dans notre lignage chez Sapiens, après la séparation des autres humains, les archaïques, 100 seulement touchent des acides aminés. C'est très peu. Les autres étant donc très probablement dans des séquences régulatrices importantes. Donc à partir de cette constatation, les auteurs du papier dont je vais vous parler s'intéressent aux méthylations de l'ADN et se concentrent sur la question du langage. Donc les changements dans notre lignage sont attribués non seulement à des changements neuronaux, mais aussi à des changements anatomiques de l'appareil vocal. C'est un truc sur lequel je reviens assez régulièrement, mais c'est important. Ce qui semble donc acquis, c'est que même avec notre cerveau, les autres anthropoïdes, avec un cerveau identique au nôtre, les autres anthropoïdes ne pourraient pas avoir notre niveau d'articulation. Ce qui veut dire que nos cousins PAN, hein, chimpanzés et bonobos, ne sont pas seulement inaptes sur le plan linguistique et grammatical, mais aussi sur le plan de la mécanique vocale. Ce qui ne signifie pas qu'ils sont inaptes à communiquer par un langage des signes, hein, bien mieux que vocalement, même si on peut s'interroger sur la complexité et la richesse de cette communication. Donc pour s'en tenir au seul répertoire vocal, l'étendue des variations phonétiques est dictée par l'appareil vocal. Ce qui veut dire par la position du larynx, de la langue, des mandibules et des lèvres. Les humains sont les seuls primates, actuellement vivants, hein, les seuls primates, je ne parle pas des archaïques, hein, les seuls primates à présenter une proportion 1-1, vous voyez, à peu près carré ici, entre les dimensions horizontales et verticales des voies vocales. Cette proportion est spécifiquement humaine, et elle est permise par une réduction de la face. Hein, on voit bien que la face du chimpanzé et la face de Sapiens, ce n'est pas la même chose. Une réduction de la face et une descente du larynx. Et que le larynx est en position plus basse chez Sapiens que chez le chimpanzé. C'est en tout cas ce qu'on observe entre nous et les chimpanzés, puisque pour Néandertal, les restes cartilagineux sont quasiment absents et qu'on ne peut pas trancher sur la façon, la forme de la bouche d'un Néandertalien ou d'un Denisovien. Cependant, comme nous l'avons déjà vu, j'en ai parlé au début, les osseoïdes, hein, l'osseoïde, il est là, en jaune, hein, les osseoïdes et la forme de la voûte osseuse qui surplombe la cavité buccale sont similaires entre les deux espèces humaines, ce qui ne dit pas si elles ont des capacités vocales et linguistiques identiques, mais probablement sur le plan de la mécanique, ça devait fonctionner à peu près de la même façon. L'article de ses collègues ici s'appuie sur ce qu'on appelle un séquençage bisulfite du génome à partir de fémurs, de dents, de phalanges, de côtes, d'humains modernes, contemporains ou plus anciens et d'humains archaïques, néandertal, dinosaurien. Contemporains ou plus anciens, ça veut dire des gens qui sont morts récemment, hein, et d'autres qui ont peut-être pu vivre il y a 1000, 10 000, 20 000 ans, mais qui étaient des humains. Donc je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais ce type de séquençage dit bisulfite permet de distinguer ce qu'on appelle les CPG méthylés, c'est-à-dire les cytosines qui sont méthylées dans des dimères CPG, des CPG non méthylés. Et la méthylation des cytosines dans les CPG est une modification épigénétique qui est très importante, qui consiste à ajouter un groupement méthyl, CH3, sur les cytosines des dimères. Des dimères CPG, mais maintenant on sait que c'est aussi des autres dimères, disons CPX, ça peut être AT et GC. Alors ils ont séquencé comme ça 6 chimpanzés qui ont servi de groupe externe, ce qui permet de savoir le long de quel lignage les modifications sont produites, humains ou chimpanzés. Donc, ils ont pris ils ont identifié 18 080 leucies qui montrent des différences de méthylation, on appelle ça des DMR. Alors ensuite, on a retiré évidemment tous les sites qui pourraient correspondre à des différences interindividuelles, l'âge, le sexe, différents types de structures, et ils en sont descendus à 6731 régions différentiellement méthylées, qui ont été classées par niveau de signification. Le groupe externe a permis d'identifier les lignages qui portent ces modifications. Alors, les gènes différentiellement méthylés, qu'on appelle DMG, gènes différentiellement méthylés, sont définis comme comprenant une région différentiellée à moins de 5 kilobases du gène. On peut penser que quand on est à moins de 5 kilobases du gène, une méthylation peut modifier l'expression de ce gène. Donc ça, c'est assez conservateur, parce qu'on peut aussi modifier l'expression d'un gène en étant à 100 kilobases, voire à 200 kilobases, s'il y a un repliement de la structure, ce dont je vous parlerai un peu plus tard. En tout cas, à 5 kilobases, la probabilité que cette méthylation modifie l'expression du gène est très forte. Donc, l'ontologie génétique montre que ces gènes, donc différentiellement méthylés, donc à 5 kilobases d'une région différentiellement méthylée, sont enrichis en termes associés avec le squelette. Différenciation des chondrocytes, synthèse des protéoglycanes, développement du cartilage, développement du squelette embryonnaire, ossification. On trouve aussi des termes qui sont associés aux muscles squelettiques et au système nerveux. Donc, il y a un outil qui s'appelle Gene Organizer qui permet de lier les gènes à des organes et son utilisation. Et alors, quand on fait ça, on se rend compte que les gènes les plus enrichis que parmi les gènes différentiellement méthylés, qui sont dérivés des humains modernes, les gènes affectant la voix sont les plus enrichis. Les cordes vocales et le larynx, hein, comme on peut voir ici, par exemple. Hein. Et puis, si on est un tout petit peu plus souple, un peu moins drastique dans la comparaison, on voit que les gènes qu'il y a aussi des gènes en dessous qui affectent la face, le pelvis et la colonne vertébrale. Et ça, c'est intéressant parce que ce sont trois régions qui présentent des différences morphologiques, en tout cas les différences morphologiques les plus fortes entre les humains modernes et les néandertaliens, a fortiori les pannes, chimpanzés, bonobos. En conclusion, on peut dire que les gènes affectant la voix sont les plus surreprésentés dans les régions différentiellement méthylées le long du lignage de l'homme moderne. Donc, on proposera, ce que les auteurs font, que les niveaux de méthylation de plusieurs gènes affectant la voix ont changé depuis la séparation entre les humains modernes et les humains archaïques. Les chimpanzés, c'est le groupe externe, et ce qu'on regarde, c'est la différence entre les archaïques et les modernes, les archaïques étant les néandertaliens, pour faire vite. Donc la question importante est, pour chaque gène, c'est de l'étendue de ces changements et de leurs conséquences. Donc ils ont scanné les génomes complètement, de 100 kilobases en 100 kilobases, et ils ont regardé la fraction de CPG différentiellement méthylée chez les humains modernes, et ça, c'était soumis à une analyse computationnelle. Alors cette fraction est double de la moyenne pour tous les gènes qui affectent la voix. Parmi les 5 gènes différentiellement méthylés les plus importants, 3 affectent le squelette du larynx, ACAN, SOX9 et COL2A1. C'est énorme, hein, parce que il y a seulement 2% des gènes, 502 gènes, qui sont impliqués dans la morphogénèse du larynx. Donc ça, c'est vraiment une surreprésentation des régions différentiellement méthylées. Donc si on se penche sur la nature de ces gènes, on voit confirmer leur implication cartilagineuse et squelettique, qui confirme que la paléontologie génétique peut venir au secours d'une paléontologie fondée sur la fossilisation, en particulier quand les tissus concernent des tissus mous, hein, non conservés. Donc, il y a des agrécanes, il y a du collagène, etc., mais il y en a deux qui sont assez intéressants. Un qui s'appelle SOX9 et l'autre s'appelle NFIX, et ce sont des gènes qui sont des facteurs de transcription. NFIX se fixe sur un promoteur de SOX9, en même temps que SOX9 régule l'expression des deux autres gènes, ACAN et COL2A1. Donc, COL2A1, c'est un gène qui est impliqué dans la croissance du squelette et les processus de pré-ossification, y compris au niveau du larynx. Et la méthylation du promoteur de SOX9, chez Sapiens, réduit son activité comme celle des gènes cibles. D'une façon générale, ce qu'on constate, si vous voulez, c'est une hyperméthylation chez les humains modernes, du promoteur de SOX9 et de 3 enhancers proximaux. Donc, NFIX, donc, je vous disais, c'est un des gènes les plus dérivés chez les humains modernes, hein, du point de vue de la densité des méthylations. Donc, il a vraiment été hyperméthylé. Il est classé 13e dans les tissus squelettiques. En fait, tous les tissus squelettiques sont modifiés, mais pas seulement le larynx et l'os, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme NFIX se fixe justement sur un enhancer de SOX9, on peut imaginer une corrélation entre changement de morphologie faciale et celui de l'appareil vocal. Alors, si vous regardez les données de la pathologie, des mutations de NFIX affectent la morphologie faciale humaine. Il y a une hypoplasie de la face. Hein, voilà, donc, ça, c'est une maladie dans laquelle on a des mutations de NFIX. Et vous voyez que la morphologie faciale humaine, c'est une hypoplasie, elle devient beaucoup plus plate. Il y a une rétraction de la mâchoire inférieure. C'est le syndrome dit de Marshall-Smith et Malan. Et dont, dans la maladie de Marshall-Smith, une anomalie du larynx. Donc on peut proposer, si vous voulez, que quand je réprime mon activité NFIX, j'aplatis un peu ma face. Quand je l'active, ça c'est des méthylations. Hein. Oui, quand je diminue encore. Alors plus je méthyle, et moins j'ai d'activité. Et puis je peux avoir une zone ici qui est la zone des humains normaux, vous voyez comme ça. Si je mute, et donc j'ai une très petite expression de NFIX, donc j'ai une hyperméthylation, à ce moment-là, je peux avoir une maladie de ce type. Mais évidemment, vous voyez que chez Néandertal, on peut imaginer que son profil facial était celui d'un humain dans lequel l'activité de NFIX était supérieure à ce qu'elle est chez un humain moderne. Et donc, très probablement que il y a une relation possible entre méthylation et changement de la forme de la face, mais très probablement, si on regarde les différences de méthylation entre l'humain moderne et les néandertaliens, il est probable que le profil néandertalien était un peu différent du nôtre, ce qui évidemment peut avoir des conséquences sur ses capacités linguistiques. Donc, avant de revenir au langage, un peu plus tard, à travers un rappel sur FOXP2, parce que FOXP2 a été très souvent discuté ici, en particulier dans mon cours, je veux aussi vous entretenir un peu plus hein, sur les méthylations de l'ADN en rapport avec l'évolution de Sapiens. Donc ça, je vais le faire à travers un article de Hernando Eraes, qui est sorti dans PLOS Génétique en 2015. Et on s'interrogera un peu plus tard sur la façon dont les méthylations se maintiennent au fil des générations. Parce qu'en fait, ces méthylations ne sont pas dans l'ADN. C'est-à-dire que, ça veut dire que s'il y a quelque chose d'épigénétique qui se maintient de génération en génération, il faut bien comprendre le mécanisme qui est impliqué dans cette addition des groupements méthyl sur les CPG chez Sapiens, en particulier, en tout cas, les différences entre espèces. Hein. Donc, il existe trois types de méthylation, je vous le rappelle, je vous l'avais dit, mais je le rappelle, trois types de méthylation. C'est une addition d'un groupement CH3 sur une base nucléotidique de l'ADN. Donc, il y a les méthylations sur les adénines, hein, les 6-méthyladénines. Il y a les méthylations en 4 sur les cytosines et en 5 sur les cytosines. Donc, les deux premières, en 4 sur les cytosines ou sur les adénines, sont des méthylations qui sont très souvent, qu'on rencontre surtout chez les prokaryotes, hein, les bactéries, etc. Certains eucaryotes aussi, mais la 5-méthylcytosine est la modification, celle dont je vous parle jusqu'à maintenant, hein, depuis le début du cours, est la modification qui est prédominante chez les eucaryotes, donc chez nous. Alors, chez les mammifères, beaucoup de dimères CPG sont soit isolés, soit relativement isolés hein, dans le génome, à certaines distances, donc il n'y a pas, soit ensemble, hein, formant ce qu'on appelle des îlots CPG, c'est-à-dire des CPG, 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 CPG très denses. Et entre 60 et 80% des CPG sont isolés. Et ces CPG sont le plus souvent méthylés. Hein. Mais les îlots CPG, c'est-à-dire quand tous les CPG sont rassemblés et concentrés, la méthylation est beaucoup plus faible. Ils sont plutôt peu méthylés. Donc, les îlots CPG, qui sont proches de promoteurs, 60% de gènes hein, ont un îlot CPG au voisinage de leur promoteur. Et quand ils sont méthylés, ce ne sont pas les endroits les plus méthylés, mais quand ils sont méthylés, ça, c'est très souvent synonyme de répression de l'expression. C'est ce qui se passe dans l'inactivation du X. Vous écoutez le cours d'Edith Heard, par exemple. C'est ce qui se passe aussi dans les phénomènes d'empreinte parentale, etc. Donc la fonction des méthylations hors des CGI, des îlots CPG, sont assez mal comprises, ces fonctions, même si une méthylation dans le corps du gène, dans le gène lui-même, est souvent associée à une régulation de l'épissage, c'est-à-dire sauter un intron ou deux introns, rassembler le premier exon au troisième, au deuxième, etc. La répression des éléments transposables, sur lesquels je vais revenir de façon appuyée, du fait de leur rôle dans l'évolution, les éléments transposables sont des morceaux d'ADN qui soit se décrochent et s'insèrent ailleurs, soit sont transcrits en ARN, puis rétrotranscrits en ADN et vont s'insérer ailleurs. Donc ce sont des éléments qui sont très mobiles dans le génome et qui sont très importants pour l'évolution, comme je viens de le dire. La pression des éléments transposables passe par leur méthylation. C'est-à-dire que la méthylation des éléments transposables bloque, si vous voulez, la mobilité du génome et donc, d'une certaine façon, l'instabilité du génome. Alors, comme je viens de vous le dire, jusqu'à récemment, on parlait uniquement des méthylations des CPG, mais aujourd'hui, il faut être un petit peu prudent parce qu'il semblerait que d'autres dinucléotides commençant par une cytosine, CPA, CPT, CPC, par exemple, soient aussi reconnus par les DNA méthyltransférases. Rajouter d'un CH3, c'est une enzyme, DNA méthyltransférase, qui rajoute un méthyl sur l'ADN. Il y a un point qui est assez important, c'est la nature mutagène des cytosines méthylées en position 5, des 5 méthylcytosines. En fait, les 5 méthylcytosines sont susceptibles d'une déamination spontanée qui conduit à une mutation de cytosine en thymidine, c'est-à-dire que le CPG va se transformer en TPG. C'est une mutagénèse qui est accélérée, qui est naturelle, et elle a pour effet qu'alors que la divergence, et ça c'est vraiment important par rapport au mythe des 1,23%, alors que la divergence moyenne entre sapiens et chimpanzés est de 1%, le fameux 1,23%, au niveau des sites CPG, qui sont très importants pour la régulation de l'expression génétique, au niveau des sites CPG, cette divergence passe à 15%. Parce que quand on est méthylé, et comme il y a des méthylations différentielles entre l'homme et le chimpanzé, quand je suis méthylé, je peux à ce moment-là introduire une mutation. Donc j'ai des mutations qui sont très enrichies localement, au niveau des anciens sites CPG qui sont maintenant transformés en TPG. Donc, cette augmentation de 1% à 15% de divergence au niveau des CPG a évidemment des effets importants sur l'expression génétique. Il est donc admis, plus qu'admis, que le haut taux de déamination des 5-méthylcytosines conduit à une déplétion relative des CPG, qui est une caractéristique des génomes de mammifères. Alors, comme je vous l'ai dit il y a un instant, il existe de nombreux îlots CG, CPG, qui sont peu méthylés. Donc, quand on a plein de CPG, il y a assez peu de méthyl sur les cytosines. Donc, ils sont peu déaminés, transformés CT, mais présents pour plus de 80% d'entre eux à moins de 10 kilobases d'un site de transcription, d'initiation de la transcription. Et cela répond en partie, nous allons revisiter ce point à un moment donné, à la question l'héritabilité des patrons de méthylation. Le génome semble contenir une information qui régule le niveau de méthylation, par exemple sous la forme de séquences reconnues par des DNA méthyltransférases. Par exemple, et paradoxalement en apparence, les régions riches en GC ne sont pas favorables à la méthylation, ça je vous l'ai dit. Donc, une conséquence de toutes ces observations est que le changement évolutif dans les contenus en CPG contribue à modifier le paysage de méthylation d'une espèce. Et ça, c'est ce que je vous schématise ici en A. Vous voyez que si vous avez beaucoup de CPG, vous pouvez avoir des transformations CT quand je suis méthylé. Et ça, ça conduit à perdre les CPG. Et donc, ça va diminuer mon niveau de méthylation avec le temps au cours de l'évolution. Si je n'ai pas beaucoup de méthylation, eh bien à ce moment-là, je ne vais pas avoir de mutation, donc mes C vont rester des C, et puis ça sera très bien comme ça. Donc le niveau de méthylation de cytosine a un rôle, si vous voulez, dans la modification des séquences au cours de l'évolution. Donc les régions riches en CPG sont appelées des balises CPG, en anglais on dit CPG beacons, et elles sont propice évidemment à générer des régions qui sont différentes en méthylées entre espèces. Et généralement, ces balises sont enrichies au voisinage de gènes qui sont importantes pour la cognition et pour le comportement. C'est le cas, par exemple, pour un gène dont je vous ai parlé, HAR1, vous savez, c'est Human Accessible Region 1, qui est un ARN qui code, c'est un ARN non codant, on en a parlé en 2016, joue un rôle dans le développement du cortex. Donc ici, vous voyez, par exemple, dans la région B, dans la partie B ici, qu'une mutation qui affecte la fixation d'un facteur de transcription, là donc j'ai mon facteur de transcription, ici j'ai une mutation qui fait que mon facteur de transcription ne se fixe pas, peut avoir un effet assez fort sur la méthylation en aval du site de fixation du facteur de transcription. Et puis, en C, ici, vous avez un cas qui est assez intéressant, c'est-à-dire que j'ai un rétrotransposon qui s'est inséré, donc un élément de rétrotransposition. Il y avait un transposon là, il a fait un ARN, il s'est transformé en ADN qui est venu se fixer ici. Et ça, ça peut introduire de nouveaux CPG qui peuvent être sujets à des régulations de la transcription par l'addition d'un méthyle. Ils sont déméthylés là, mais ils peuvent être méthylés. Donc, ce sont des mécanismes qui sont des mécanismes importants parce que, évidemment, comme vous le voyez, tous ces problèmes de CPG et de méthylation des CPG jouent un rôle très important dans la régulation de l'expression génétique. Il existe plus de 100 régions différentiellement méthylées entre les humains et les macaques, et ces régions touchent des gènes aux fonctions neurales qui sont souvent associés à des maladies comme la schizophrénie ou la maladie d'Alzheimer. 14,5% des sites CPG dans les promoteurs, seulement 14,5%, c'est pas mal, des sites CPG dans les promoteurs sont méthylés différentiellement entre les tissus. Et ça, c'est normal parce que selon que vous soyez un fibroblaste ou un neurone, vous n'avez pas exprimé le même type de gène. Et donc les niveaux de méthylation vont être différents pour réprimer un gène ou ne pas le réprimer selon le tissu dans lequel. Donc le même gène peut avoir un promoteur dans lequel il y a suffisamment de ces approximativités de promoteurs, une région suffisamment méthylée pour réprimer le gène. Par exemple, un gène neural ne va pas être exprimé dans un fibroblaste, donc vous avez des différences entre tissus. 8,6% environ des CPG présents dans les promoteurs sont méthylés différentiellement entre espèces. Et ceux-là sont responsables de 12 à 18%, de 12 à 20% de différences observées dans l'expression des gènes. Donc vous voyez tout de suite qu'on passe de 1,23%, mais dans des gènes qui sont particulièrement importants, au niveau de la cognition par exemple, vous montez tout de suite de 1 à 18%, ce qui est quand même pas négligeable. 70% des gènes, alors c'est une question du sperme qui est une question intéressante, 70% des gènes dans le sperme, des chimpanzés et des humains, sont hypométhylés, très peu de méthylation, mais avec des différences sur lesquelles je vais revenir dans un instant parce que c'est important sur un plan évolutif. Donc je passe évidemment sur les différences qui ont été observées dans les cellules sanguines et j'insiste sur les plus de 2000 régions différentiellement méthylées observées avec les humains archaïques, entre nous et les humains archaïques, avec des changements très importants dans un complexe, qui est le complexe OXD, qui est un complexe des gènes OX, et qui évidemment peut avoir à faire avec le plan du corps et surtout la stature, la façon dont se comporte, la longueur des mains, la longueur des bras, etc. Donc le plan du corps d'une façon générale. Donc je viens de vous l'annoncer, je vais discuter avec vous un article récent, très récent en fait, sur les méthylations différentielles entre le sperme humain et le sperme des chimpanzés. Avant, il faut que je vous rappelle assez brièvement ce que sont les éléments mobiles dans le génome. Donc brièvement, parce que je vais y revenir de façon très appuyée un peu plus tard, à la fin de ce cours, et aussi dans le cours suivant. Donc ce sont des éléments qui font environ, vous le savez parce que j'en ai déjà parlé, mais je vais partir d'une revue. Alors là, c'est une série de références que vous pourrez aller voir quand le cours sera mis sur le site web, qui sont importants parce que pour ceux que ça intéresse, vous avez des différences, vous avez des références, des articles qui peuvent traiter des choses assez intéressantes, par exemple les régions qui sont différentiellement méthylées et qui ont à voir entre l'humain et le macaque, par exemple, et qui ont à voir avec, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, la schizophrénie, mais Alzheimer. Là, c'est entre l'humain et le chimpanzé, des gènes différenciants méthylés dans des structures comme le foie, le cœur et le rein. Là, le sperme, on va en parler dans un instant. Et donc, je pense que si ça vous intéresse, ces affaires, je vous recommande d'aller regarder un tout petit peu certaines de ces références qui sont très intéressantes. Et je n'ai pas le temps, évidemment, de vous discuter tous ces articles. Mais ce dont j'ai discuté maintenant, c'est cette question de transposons. Donc ça, c'est une diapositive d'introduction. Dans le génome humain, comme vous voyez, il y a à peu près 45% du génome qui est constitué de transposons, ce qui veut dire d'éléments mobiles. Alors, rassurez-vous, ils ne bougent plus beaucoup. Ils sont ce qu'on dit fossilisés. Donc beaucoup de ces éléments sont fossilisés. Mais ça veut dire qu'au cours de l'évolution humaine, vous avez une très grande mobilité de l'ADN dans le génome. C'est-à-dire que le génome est quelque chose d'extraordinairement mobile. Le génome n'est pas un truc fixe, c'est quelque chose qui est très très mobile. Mais en tout cas, il a été très très mobile puisque ces gènes sont là et constituent 45% de notre génome. Donc même si ces éléments sont fossilisés, donc ils ne se déplacent plus d'une région du génome à une autre, ils ne sautent plus, ils sont des gènes sauteurs, mais ils ne sautent plus, ils ont conservé des fonctions régulatrices. Et ils ont gardé ces fonctions parce que soit ils encodent des ARN régulateurs, c'est-à-dire qu'ils sont transcrits, ça fait des ARN, et ça, c'est des ARN qui sont régulateurs, soit parce qu'ils ont généré des domaines nouveaux, des domaines nouveaux de fixation de protéines régulatrices. Chez Sapiens, alors, j'ai dit ils ne sautent plus, mais ils sautent encore un peu. Chez Sapiens, il y a une centaine de transposons qui sont encore actifs. Donc vous avez chez Sapiens, chez nous, une centaine d'éléments mobiles comme ça qui peuvent passer d'un morceau du génome à un autre. Et chez la souris, c'est bien pire, il y a 3000 transposons actifs chez la souris. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a 5 classes. Là, j'ai mis 6 classes. En fait, il y a 6 classes de transposons. Vous avez les transposons à ADN, ici. Donc, en fait, c'est un morceau d'ADN qui sort, donc ça fait un trou qui est réparé. Et ce morceau d'ADN va aller se mettre ailleurs. Donc ça, c'est un morceau d'ADN qui peut sauter d'un endroit à un autre, qui va donc introduire des mutations, mais qui n'agrandit pas le génome, puisque j'en perds un bout d'un côté, mais je récupère de l'autre. Donc la taille totale de mon génome ne change pas par la rétrotransposition des transposons ADN. Mais vous savez ce qu'on appelle les rétrotransposons. Il y a plusieurs classes de rétrotransposons, et il y en a qui sont en fait dérivés de rétrovirus, par exemple, toute cette classe-là qu'on appelle les RFK, ce sont 8% du génome humain, à peu près. Et ça, c'est des... Vous voyez, ça ressemble tout à fait à un rétrovirus avec deux LTR et puis trois gènes GAGPOL-ANV qui est... Alors, est-ce qu'ils sont actifs? On ne le sait pas trop, mais certains le sont probablement. Donc ça, c'est... Et puis, vous avez ce qu'on appelle les transposons apolia, qui sont en fait comme des mini-gènes avec un promoteur en sacrum UTR, et puis des séquences qui sont transcrites. Et le chef, c'est les lines. Pourquoi c'est les chefs? Parce qu'ils font deux protéines, ORF1 et ORF2. Dans ORF2, vous avez une reverse transcriptase qui permettra de faire de l'ADN à partir de l'ARN et une endonucléase qui va permettre de se fixer, de faire un trou dans le génome et de s'intégrer pour le morceau d'ADN. Alors que ceux-là, ils sont capables de faire des transcrits en ARN, mais ils ont besoin des produits de LINES pour faire de la rétrotranscription. Donc, en fait, ils sont des parasites des LINES. Ils sont des parasites super importants. Donc, les LINES, on dit qu'ils sont autonomes, ils peuvent tout faire par eux-mêmes, mais les autres transposons apolia, eh bien, eux, ils ne sont pas endogènes. Et puis là, c'est ce qu'on appelle des pseudogènes, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir une transcription d'un morceau d'ARN qui va aller capter la reverse transcriptase et l'endonucléase d'un LINES et faire donc s'intégrer et donc faire un pseudogène, c'est-à-dire que un gène qui n'était pas prévu par le système. Donc les deux activités, endonucléase et reverse transcriptase, ARN, ADN et endonucléase pour ensuite intégrer mon ADN dans le génome, sont évidemment extraordinairement importantes. Et la protéine ORF1P, elle, c'est différent. Elle lie l'ARN, elle le protège et elle le transporte vers le noyau. Donc, Comme les transposons ADNA, tous les R, ou presque, sont mutés et ne peuvent être transposés, ou presque. Mais certaines séquences ERV peuvent modifier la transcription au cours de l'embryogenèse précoce, et des protéines encodées par des gènes dérivés des ERV jouent un rôle, ça a été montré, dans le développement du placenta. Il y a peut-être aussi un rôle dans certaines pathologies, je ne vais pas vous le développer aujourd'hui, ni même la semaine prochaine, mais probablement l'année prochaine, où je consacrerai, je pense, mon cours au rôle de l'instabilité des génomes dans le développement et la physiologie du système nerveux. Donc, pour les LINE, la situation est assez différente, puisqu'ils sont autonomes et que nombre d'entre eux sont actifs chez Sapiens et la souris, entre autres espèces. Donc, il y a 500 000 séquences quand même dans le génome humain, ça c'est vraiment important, et comme je vous l'ai dit, une petite fraction des quelques 100 LINE actifs de Sapiens peut être à l'origine de pas mal de pathologies humaines. Alors, les autres rétrotransposons Apolia, SINES et Pseudogène, sont partiellement actifs, mais comme je viens de vous le dire, sous la dépendance des LINES. Donc, il y a, ces gars-là, c'est des gens relativement dangereux. Donc, le mécanisme de rétrotransposition, je vous le décris ici, c'est relativement simple. Vous avez donc la transcription de votre... Là, c'est pour un LINES, par exemple. Vous avez la transcription en ARN. Donc, vous avez la partie de l'ARN qui encode ORF1 et ORF2. Donc, ça passe du noyau au cytoplasme. Et puis, je suis traduit. Donc, je vais avoir ORF1 qui va être traduit, ces petites protéines, ORF2 qui va être traduit. ORF1 se fixe sur le messager. Et ORF2, c'est l'activité réverse transcriptase. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ORF2 va faire de l'ADN à partir de l'ARN. Et avec l'endonucléase, va faire un nick, va s'insérer ici. Donc, ici, vous avez votre poly-A. Vous avez votre ARN. Vous avez fait un nick, donc vous êtes là. Et maintenant, ça va se balader et avec ça, je vais faire de l'ADN. Et là, on ne sait pas très bien comment ça se passe, mais il y a un deuxième brin d'ADN qui est fait dans l'autre sens et donc ça va s'insérer dans le génome. Et vous voyez que quand ça s'insère dans le génome, ça crée une mutation insertionnelle. C'est-à-dire que je mets un truc comme ça, donc si ça s'insère dans un gène, ça va couper le gène en deux. Si ça s'insère dans une région régulatrice, ça va modifier ma région régulatrice. Donc ça, c'est une possibilité, un mécanisme d'évolution des génomes qui est extraordinairement fort. Donc, alors des fois, le transposon peut se mettre dans un trou qui existe déjà. Et ça, c'est un rôle de réparation, ce qu'on appelle le bandage, ou endonucléase indépendant, insertion indépendante de l'endonucléase, parce qu'il y a déjà une cassure. Donc, dans cette diapo, vous pouvez voir ici, par exemple, que ce qu'a fait ORF2, c'est qu'il a pris un messager classique donc, qui était dans la cellule, qui était, ça c'est un SINES qui utilise le ORF2 et l'ORF1 de LINE1, donc c'est le côté parasite, et puis là c'est un messager classique qui était là et qui a été rétrotranscrit, et donc il va être réinséré dans le génome, et ça va me doubler ce gène. Ça va me faire, alors il peut être muté, ça peut faire un pseudogène, si ça va pas jusqu'au bout, mais ça peut faire une duplication génique. Alors, ce ne sont pas des événements qui sont complètement sans intérêt, parce que si vous regardez un tout petit peu les rétrotranspositions de séquences LINES, ALU et SVA, qui sont des SINES de façon générale, ils se produisent au cours de la méiose, c'est-à-dire au moment où on fait des cellules germinales, avec une rétrotransposition sur 20 méioses, c'est quand même pas rien, pour les ALU. Une sur 20 à 200 méioses pour les LINES et une sur 900 pour les SVA. Et ça induit, vous imaginez bien, des différences interindividuelles entre les cellules germinales. C'est-à-dire que même si vous avez le papa ou la maman, les cellules germinales sont en plus modifiées par ces modifications, ces insertions. Si vous prenez deux personnes au hasard dans la population, elles diffèrent environ par 300 insertions qui entraînent des modifications transcriptionnelles. Et ces rétrotranspositions, alors ça c'est au cours dans les cellules germinales, mais ces rétrotranspositions elles touchent aussi des tissus somatiques, et par exemple les cellules souches neurales. Et ça, je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, mais je vous avais raconté qu'il y a des cellules souches neurales dans l'hippocampe qui font des nouveaux neurones glutamatergiques dans l'hippocampe, dans ce qu'on appelle le gyrus denté. Et dans cette prolifération, alors ça c'est les cellules souches, ça, c'est le comportement de bifurcation, ça c'est la différenciation, donc ça fait comme ça. Et à ce niveau-là, vous avez une rétrotransposition, en tout cas c'est ce que propose Rusty Gage, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, même si vous avez deux jumeaux, hein, eh bien, ils auront des modifications de leur génome au niveau des cellules souches, des neurones qui sont générés au niveau de l'hippocampe. Donc, probablement que dans d'autres tissus somatiques, on a aussi des modifications de ce type. Donc, je vous indiquerai plus tard, j'y reviendrai, et ça c'est indiqué ici, que, et là c'est indiqué avec des séquences alu, hein, donc des signes, c'est bien que quand vous avez des duplications comme ça de fragments assez régulièrement espacés dans le génome, au moment des recombinaisons, vous avez des reconnaissances qui font que vous allez avoir des délétions de gènes et vous avoir des duplications de gènes. Et ça, c'est très important parce que c'est un très fort moteur évolution que de perdre un gène ou que de dupliquer un gène. Et donc, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans ce cours. Donc, maintenant que nous sommes armés de ces éléments rudimentaires de connaissances, hein, sur lesquels je reviendrai, je vais revenir tout de suite à la question des méthylations, en particulier au niveau de la lignée germinale, parce que c'est une chose qui est de grande importance, puisqu'évidemment, à toute modification au niveau de la lignée germinale a de fortes chances d'avoir des effets au cours du développement, hein, et ou de devenir héréditaire. Donc, je pars d'un article assez récent de Fukuda, qui discute l'évolution du méthylome. Le méthylome, vous savez, on dit le transcriptome, le méthylome, le machin. Donc, le méthylome, c'est simplement les régions qui sont méthylées différentiellement dans les différents organismes. Le méthylome dans le sperme des primates, en lien avec les insertions de rétrotransposons et l'instabilité génétique. Alors, les auteurs commencent par rappeler que la plupart des CPG sont méthylés, ce qui n'est pas entièrement vrai, puisque vous avez vu que je vous ai dit que dans les îlots CPG, les méthylations ne sont pas très fortes, mais que cette méthylation est réduite dans les CGI, dans les îlots CPG, ce que je viens de vous dire. Et puis, la méthylation est évidemment faible dans les promoteurs et dans les enhancers qui sont actifs. C'est-à-dire que quand je suis actif, je ne suis pas méthylé. L'hypométhylation est synonyme d'activité transcriptionnelle. Alors, c'est jamais noir et blanc. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions qu'il faut être méthylé pour être actif. Parce que, évidemment, la biologie, c'est toujours comme ça, il y a toujours des exceptions et des modifications. Mais en général, c'est une règle qui tient. Et donc, la méthylation est réduite dans les îlots CPG et dans les promoteurs et les enhancers actifs, en contraste avec un niveau très élevé de méthylation dans ces mêmes éléments quand les gènes qu'ils contrôlent sont réprimés au niveau transcriptionnel. Et si on compare des espèces proches, les changements ne se trouvent pas tant au niveau de la séquence des protéines. Hein, en fait, c'est des mutations qui sont assez rares. Les protéines sont plus ou moins les mêmes entre un chimpanzé et un humain, c'est les mêmes protéines essentiellement. Mais les modifications, ce sont des modifications qui affectent le site d'expression, le niveau d'expression et la durée d'expression d'un gène. Et ça, ça a à voir avec la régulation. Hein, où suis-je exprimé, à quel niveau et pendant combien de temps, ce n'est pas le gène qui lui-même est modifié, c'est les éléments régulateurs qui sont modifiés. D'où l'importance des modifications dont je suis en train de vous entretenir. Donc ces modifications des éléments régulateurs ou de leur activité passent par plusieurs canaux, bien entendu, dont leur mutation, dont des modifications des histones qui structurent la chromatine, mais aussi dont la méthylation. Et on estime aujourd'hui que de 12 à 20% des différences d'expression génétique entre chimpanzés et humains sont explicables par des méthylations dans les promoteurs. Hein. Donc ça, c'est pas 12 à 20%, c'est pas mal. Donc les modifications de méthylation ont des effets sur la fixation des facteurs de transcription ou de protéines. Alors, un des exemples classiques, c'est ce qu'on appelle les CCTC Binding Factors, CTFC, qui n'ont pas d'activité transcriptionnelle par eux-mêmes. Ils se lient à une autre protéine qui s'appelle la coésine et ils jouent un rôle très important dans la structure tridimensionnelle de la chromatine. Et là encore, les transposons ont une fonction évolutive, puisque 4% des sites de fixation de ces facteurs sont dérivés d'éléments de type SYN, de type ALU, encore reconnaissables. Hein. Donc ça veut dire en fait que ces insertions dans le génome ont eu un rôle non seulement de modification de la structure linéaire du génome, mais aussi de la structure tridimensionnelle du génome. Alors cette structure tridimensionnelle est très importante dans la régulation de l'expression génétique, hein, parce qu'elle produit ce qu'on appelle des TADs, c'est-à-dire des domaines topologiquement associés. Hein, c'est un terme qui a été inventé par Edith Hurd, Topologically Associated Domains. Et c'est évidemment crucial parce que la structure tridimensionnelle va vous mettre, par exemple, un enhancer à côté d'un promoteur. Et donc ça va modifier votre activité transcriptionnelle. Donc, et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, quand j'ai une région qui est méthylée à 5 kilobases, je suis à peu près sûr qu'elle aura un effet, et puis j'ai ajouté tout de suite, mais ça peut aussi avoir un effet si elle est méthylée à 100 kilobases. Ça peut avoir un effet si elle est méthylée à 100 kilobases, parce que justement, vous avez ces repliements. Et ces repliements, en tout cas chez la souris, ces repliements peuvent être provoqués par l'insertion de séquences de type ALU, de type SYN, mais qui ont eu lieu, évidemment, il y a un certain temps, parce qu'elles sont dérivées d'éléments SYN. Donc ces structures tridimensionnelles sont donc cruciales, hein, puisque, comme je dis, elles mettent au contact les promoteurs avec les enhancers, même quand ces deux structures sont à des distances considérables. Hein. Alors, on n'est plus à 5 kilobases, là, on peut être à 150 kilobases, 200 kilobases, 300 kilobases. Donc ça a amené énormément d'études sur... consacré à la structure tridimensionnelle des génomes. Alors, le consensus, si vous voulez, le consensus général aujourd'hui, que les régions hypométhylées dans ce qu'on appelle l'épigénome des mammifères étaient de petite taille, quelques kilobases, comme les CGI ou les enhancers. À ce moment-là, on a récemment identifié des domaines hypométhylés de plusieurs dizaines de kilobases. Et dans les tissus normaux, ces domaines hypométhylés sont plutôt riches en G et en C et souvent marqués par des histones particulières comme H3K27-méthyl3 ou H3K4-méthyl3, qui sont des formes modifiées d'histones H3 avec des effets transcriptionnels. Donc, les changements de méthylation des régions hypométhylées se produisent au cours de la différenciation ou dans des cas de pathologie. Donc, les mécanismes de formation et de maintien ou non de ces régions sont mal connus. Et les auteurs se sont penchés sur les chimpanzés et les humains, de nouveau avec les macaques comme groupe externe. Alors, j'y viens, les techniques utilisées pour voir des méthyls, c'est ce qu'on appelle le séquençage bisulfite. Vous avez ici la technique très claire, qui est assez simple. Ça fonctionne dans ce principe. Donc, vous voyez qu'on peut identifier les cytosines méthylées en 5. Ça peut être méthylé ou hydroxyméthylé. Mais si vous avez des cytosines méthylées ou hydroxyméthylées, par une technique de modification par le bisulfite, vous allez transformer le C en T, et ces deux gars-là, ils sont résistants, on veut simplement transformer en C. Donc quand vous allez comparer cette séquence-là avec cette séquence-là, vous saurez où il y avait des méthylations. Et par un processus d'oxydation, vous pouvez aussi transformer cette 5-HMC en 5-FC, et puis ensuite faire un bisulfite, et là vous allez avoir deux transformations en T, et ici une transformation en C. C'est-à-dire que quand vous faites toutes ces séquences, finalement vous êtes capable de savoir où vous aviez, ça c'est un 5-formyl cytosine, vous êtes capable de savoir où étaient vos régions 5-méthylcytosine ou 5-hydroxyméthylcytosine. Donc ça c'est simple, et à partir des données de la littérature, les auteurs ont vérifié, ont pu établir qu'il existe de nombreuses régions différentiellement méthylées et qui sont espèces spécifiques. Donc ça, c'est ça qui est important. Et ces régions différentiellement méthylées entre les espèces, donc, c'est-à-dire qu'avec des différences de méthylation qui sont espèces spécifiques, qui marquent l'appartenance à une espèce, eh bien, il se trouve qu'on en trouve dans le sperme, et elles sont très fréquemment dans des régions intergéniques. Donc, les régions intergéniques, c'est des régions qui sont entre les gènes. Et dans ces régions intergéniques, eh bien, il y a souvent des séquences répétées de type rétrotransposon. Et dans les cellules somatiques, les neurones, les fibroblastes, les muscles, ces régions sont plutôt dans les promoteurs, dans les exons et dans les introns. Donc, c'est une différence probablement importante, mais Quelle est l'importance? On ne le sait pas. Et ce qu'on peut dire, c'est que les régions qui sont hypométhylées de façon espèce spécifique dans le sperme ne le sont pas dans le tissu somatique. Donc il y a une différence qui se produit évidemment au cours de la différenciation. Pas que je me trompe dans mes diapositives. Oui. Alors, ça veut dire, en fait, qu'il s'est produit une dérivation très rapide du méthylome. Dérivation, ça veut dire une évolution très rapide, le nom des gènes du méthylome, dans le sperme, depuis la séparation entre les chimpanzés et les humains. Donc, humains, chimpanzés, et là, vous avez une grande modification du méthylome. Et si vous introduisez un macaque, toujours comme groupe externe, les auteurs ont identifié quelque chose comme 3112 domaines hypométhylés et 2563 hyperméthylés chez Sapiens contre 22 000 hypométhylés et 608 hyperméthylés chez le chimpanzé, toujours espèce spécifique. Et l'analyse de ces régions révèle que pour le sperme, mais pas pour les cellules somatiques, les régions différentiellement méthylées sont très enrichies en rétrotransposons. Hein. Donc, en fait, 40% des régions différentiellement méthylées dans le sperme contiennent des rétrotranspositions de la famille ALU, enfin ALUY en fait, SVA beaucoup moins, et THEC1 encore beaucoup moins. Donc, ces derniers sont des rétrotranspositions en LTR, hein, dérivés de rétrovirus. Et si je m'en tiens aux ALUY, hein, qui sont des séquences de type SYN, en fait, il y en a énormément de séquences ALU chez Sapiens, qui forment la grande majorité, les niveaux de méthylation aux abords des ALU sont en général plus bas hein, chez Sapiens que chez... vous voyez, voilà ici une insertion, et vous voyez que les niveaux de méthylation sont plus bas chez Sapiens que chez le chimpanzé. Là, on regarde human versus chimp, et là, human versus chimp, et ça, c'est une insertion d'un SVA, et là, c'est l'insertion d'un ALU. Et vous voyez que vous avez des modifications de méthylation qui sont liées, en fait, à l'insertion de ces transposons. Donc, les auteurs ont remarqué que certaines de ces régions qui sont différentiellement méthylées dans le sperme sont très très grandes, elles ont plus de 20 kilobases. Hein, et donc, cela les a conduits à rechercher des régions qui sont hypométhylées dans les tissus humains et chimpanzés, sans se préoccuper trop des régions espèces spécifiques. Hein. Et il est apparu assez clairement que le sperme, hein, chimpanzé humain, contient plus de régions hypométhylées que les tissus somatiques. Hein. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça peut vous embêter, mais si vous regardez ici les régions différentiellement méthylées, vous voyez qu'entre l'humain et le chimpanzé, il y a des régions qui sont différentiellement méthylées, qui sont ici en noir, et il y en a plus dans le sperme, hein, ici, que dans les tissus somatiques. Vous voyez ici, la différence ici est beaucoup plus grande que ces deux cercles qui sont quasiment concentriques. Donc, ça veut dire que ces régions ont très fortement évolué entre humains et chimpanzés dans le sperme des deux espèces. En plus, ce qui est vrai, c'est qu'il y a trois fois plus de régions chez Sapiens que chez Pan, qui sont donc hypométhylées. Et 234 des très grandes régions hypométhylées chez Sapiens sont vraiment spécifiques de notre espèce. Il n'y a que chez nous. Hein. Alors que 9 des 236 sont spécifiques de Pan seulement. Donc ces régions sont méthylées chez le macaque, ce qui indique que c'est bien un trait qui est dérivé chez Sapiens, puisque le macaque, il est comme le chimpanzé de ce point de vue-là. Donc c'est quelque chose qui nous est arrivé postérieurement à la séparation des chimpanzés. Et ce sont des régions qui sont localisées dans des régions pauvres en GC, pauvres en gènes, riches en L1. Donc, et beaucoup sont dans le chromosome X. Donc, ce que je voulais aussi vous rajouter là-dessus, c'est que l'hypométhylation est très souvent associée à des instabilités chromosomiques dans certaines maladies, dont certains cancers. Et pour ce qui est plus important pour nous, hein, ici, c'est qu'elles sont associées à des variations dans le nombre de copies génétiques, ce qu'on appelle les CNV, Copy Number Variations. Et les variations en copies génétiques sont très importantes dans énormément de maladies qui sont liées à des variations en nombre de copies génétiques. Donc il est apparu hein, que les régions hypométhylées, partagées par les deux espèces ou spécifiques de l'humain, sont très souvent associés donc à ces domaines à des CNV. Alors je ne sais pas si j'ai mis une dia là-dessus, mais c'est pas impossible. Oui, vous voyez. Donc quand vous avez des régions qui sont différentiellement méthylées entre l'homme et le singe, hein, voilà, ici vous avez une région ici qui est hypométhylée chez l'homme uniquement. Vous avez à proximité une région qui a un changement dans le nombre de copies du gène. Vous avez ici la même chose ici pour une autre double insertion, là c'est le chromosome 4, là c'est le chromosome 6. Et donc ça peut avoir, avec ce que vous disiez tout à l'heure, de la possibilité de faire des crossing over et d'introduire ainsi des duplications génétiques. Donc on peut supposer qu'il existe un lien entre les régions hypométhylées dans le sperme et les différences spécifiques entre les espèces et des changements génétiques entre les espèces. Donc, dans leur discussion de ce papier, qui est un papier qui est un petit peu compliqué, bien entendu, mais bon, évidemment, tout ça est un peu compliqué, je veux bien l'admettre, mais c'est assez important de comprendre que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a 1,23% de différence entre l'homme et le chimpanzé pour dire que l'homme est un chimpanzé à 98%. C'est plus dur que ça. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu se creuser la tête et aller voir que, pourquoi c'est idiot de dire ça, pourquoi c'est plutôt, je dirais, paresseux. Donc, dans la discussion, les auteurs reviennent sur le contenu du papier. Ils insistent sur certains points, dont le fait que parmi les rétrotransposons éteints, il y en a un qui est enrichi dans les régions espèces spécifiques différentes métiers, à la fois dans les lignées germinales et somatiques. Et celui-là, il s'appelle LTR12C. Il a été rendu inactif il y a environ 6 millions d'années, donc juste avant notre séparation entre l'homme et le chimpanzé. Donc lui, il est chez nous et chez lui. Et en fait, toutes les copies de ce rétrotransposon éteint ont des orthologues entre les humains et les chimpanzés. Je vous rappelle qu'orthologue, ça veut dire homologue à travers l'évolution. Alors, cette famille, LTR12, elle peut servir d'annonceur, et les méthylations différentielles ont pu introduire des expressions différentielles des gènes avoisinants. Donc, c'est une constatation. Cette constatation, l'étude aussi de transposons actifs et de leur association dans le sperme à des domaines hypométhylés indique que les insertions de rétrotransposons constituent un élément important dans l'évolution du méthylome chez les primates. Donc, on est 45% de transposons quand même. Vous voyez, donc chez Sapiens, 45% de son génome est constitué d'éléments transposables. Et ce que vous avez ici, s'il y a une seule chose à retenir, c'est que ces éléments, ces rétrotranspositions, ces passages, ces amplifications de gènes à travers ces duplications par rétrotransposition sont responsables d'énormément de modifications des méthylations. Et comme vous avez des modifications de méthylation, vous avez des modifications d'expression génétique. Et donc, en fait, même si le génome est très proche, les conséquences de cette implication des éléments instables, les transpositions, eh bien, a un rôle à jouer énormément, à la fois dans les niveaux d'expression, mais aussi dans le nombre de copies de gènes, et aussi dans les déplétions de gènes, dans les trous qu'il y a, parce qu'évidemment, vous avez des duplications, mais aussi des délétions. Et si on a le temps d'y revenir, je vous ai déjà donné des exemples où vous avez une délétion. Par exemple, ce que j'appelle les human candle, des trucs qui sont conservés dans toutes les espèces, mais délétés seulement chez Sapiens. Et vous vous rappelez, je vous ai parlé de ça sur la sensibilité à la testostérone, par exemple, et la féminisation du mâle chez Sapiens et chez les espèces civilisées, entre guillemets, les bonobos, par exemple. Et puis, il y avait d'autres candles dont je vous ai parlé, un candle qui met un récepteur à Wnt, qui est un facteur, un morphogène, près d'un annonceur et qui fait qu'on a une plus grande prolifération de cellules souches dans le système nerveux. Et ça, c'est une délétion. Je vous ai aussi montré des duplications. Je vous ai parlé de SGARP-P2 une fois. Vous avez une duplication du gène et ensuite le gène est tronqué. La forme dupliquée, il y a le gène complet, mais les formes dupliquées sont tronquées et servent, en fait, jouent un rôle d'inhibiteur de l'expression, de l'activité de la protéine complète et ralentit le développement du cortex. C'est un effet de néoténie dans le développement du cortex avec plus d'épines dendritiques. Si j'ai le temps, je vous rappellerai ça parce qu'en fait, l'origine de ces délétions et l'origine de ces duplications qui peuvent être suivies ensuite de modifications des gènes dupliqués ont un rôle évidemment très important à jouer dans l'évolution et en particulier dans l'évolution du système nerveux. Donc, ce n'est pas uniquement un problème de génétique parce que tout ça a évidemment des conséquences importantes sur le développement des organes. Alors, comme le langage, évidemment, hein, si on veut penser les différences entre l'homme et le chimpanzé, on est obligé de s'intéresser aux questions de langage. Comme le langage revient régulièrement, et pour cause, hein, je rappelle aux nouveaux venus qui peuvent être encore ici, ce que j'ai dit souvent du gène FOXP2, hein, de ses mutations humaines. Je vais le faire très rapidement parce que c'est un point que j'ai abordé dans les années précédentes. Puis il a fait l'objet d'énormément d'articles, y compris dans des revues relatives assez peu spécialisées. Hein. Donc, à l'adresse d'un public plus large que le public scientifique. En effet, même si nous pouvons... vous voyez ici, c'est quand même assez frappant, hein, le nombre de CNV qui est attendu et celui qu'on peut voir, en fait, c'est-à-dire de copies, variations de copies génétiques. Donc ça, c'est vraiment frappant. Donc je reviens sur FOXP2. C'est un cas intéressant parce que ce n'est pas une mutation de régulation, c'est une mutation dans le gène lui-même. Hein. Donc, évidemment, les modifications épigénétiques, elles ont des effets extraordinairement massifs, parce qu'elles ont des effets assez larges, à la fois sur la structure du génome et sur la régulation de l'expression des gènes. Mais il peut aussi y avoir des mutations ponctuelles. Hein. Il y a, quand on dit 1,26% de mutations ponctuelles, ça fait environ 30 millions de mutations ponctuelles dans un génome, c'est quand même pas mal. Bon. La plupart dans des régions non codantes, hein, puisque le génome, c'est 98% de régions non codantes. Mais ça fait quand même 2%, si vous voulez, de 30 millions. Faites le calcul vous-même. Ça fait quand même pas mal de mutations. Je pense que ça doit faire quelque chose de l'ordre de 30 000 à 60 000 mutations. Dans des gènes, au sens protéines. D'accord ? Donc, ces mutations ponctuelles sont aussi importantes dans l'évolution. Et l'identification de gènes qui seraient à l'origine du langage humain peuvent reposer sur des mutations qui, chez vous, chez moi, ou chez l'humain moderne, sont à l'origine de pathologies linguistiques ou grammaticales. Et c'est le cas de ce gène qu'on a appelé FOXP2, qui est un facteur de transcription de la famille des Wnt/Helix, et c'est un facteur de transcription dont la perte, hein, chez Sapiens, la troncation, la mutation forte, peut diminuer l'activité ou la diminution d'activité affecte le langage. Et ça, ça a attiré l'attention des chercheurs. Hein, et on sait que les individus qui sont hétérozygotes pour FOXP2, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un seul gène FOXP2 et qui présentent une mutation qui affecte la liaison de FOXP2 à l'ADN, eh bien, ou bien carrément la perte, hein, du gène complètement par réarrangement chromosomique, souffre d'une déficience développementale qui affecte tout particulièrement le langage. Hein. À ce stade, je voudrais vous rappeler que les mutations de FOXP2 affectent la coordination des mouvements orofaciaux et l'apprentissage auditif, qui est très important maintenant pour apprendre une langue. Hein. Donc les données physiologiques suggèrent une altération des circuits cortico-striato et cortico-cérébelleux. Et il est probable que les déficits grammaticaux sont liés aussi à ces problèmes moteurs, hein, une dyspraxie orofaciale, et aussi à des modifications des circuits neuronaux, en particulier ceux qui sont impliqués dans l'apprentissage auditif. Donc, comme je dis, c'est un facteur de transcription. Il est exprimé dans un très grand nombre de tissus, dont, pour ce qui est du cerveau, les neurones pyramidaux des couches 5 et 6 du cortex, divers neurones des noyaux thalamiques, les cellules de Purkinje du cervelet, les médiums spinaux neurones du striatum, les interneurones V1 de la moelle épinière, et pour ceux qui sont un petit peu neurophysiologiques, neurobiologistes ici, ils voient tout de suite qu'il y a une sorte de couleur motrice là-dedans. C'est-à-dire que c'est dans plein de noyaux qui sont impliqués dans le contrôle moteur. Chez les oiseaux chanteurs, vous vous rappelez, je vous ai dit vous parler là, les oiseaux chanteurs, l'expression de FOXP2 est augmentée dans ce qu'on appelle l'ARAX ici, qui est impliqué dans l'apprentissage du chant, et qui diminue dans les heures qui suivent une séquence de chant. Alors, chez le pinson, par exemple, un oiseau chanteur, comme vous le savez, la perte de FOXP2 dans la R10, que vous avez ici, au cours de l'apprentissage juvénile du chant, diminue la qualité de l'apprentissage et la densité des épines dendritiques. Donc, l'expression de FOXP2 augmente dans le thalamus auditif des souris après stimulation auditive. Donc, alors chez les vertébrés, FOXP2 est parmi les 5% des protéines les plus conservées. C'est une protéine qui est extrêmement conservée parmi tous les vertébrés. Par exemple, la poule diffère de l'homme par 8 acides aminés sur 708. Donc, ce n'est pas beaucoup. Hein. Et la souris diffère de l'homme de 3 acides aminés sur 708 aussi, en gros. Quoi, hein. Donc, il suffit de deux changements dans l'exon 7 qui sont produits après notre séparation, après les chimpanzés, il y a environ 6 ou 7 millions d'années. Donc, voilà, hein, c'est ces deux changements ici. Voilà, ici, vous avez deux changements, voilà les deux mutations, qui sont produites après la séparation entre l'homme et le chimpanzé. Vous voyez, les chimpanzés et humains, d'accord ? Donc, et les chimpanzés diffèrent de la souris, eux, par une mutation, bon, c'est pas grave, un D80E, c'est un acide qui est renvoyé par un acide, donc c'est pas grave. Mais les chimpanzés ont deux acides aminés chimpanzés dans l'exon 7, hein, celui qui porte les deux changements humains. Donc nous, on diffère des chimpanzés par ces deux mutations dans l'exon 7 qui sont indiquées ici. Donc, l'évolution récente donc, a été extrêmement rapide. Hein, sur les 175 facteurs de transcription qui ont été étudiés du point de vue de leur évolution, FOXP2 est le sixième pour ce qui est de la vitesse d'évolution. Hein, et les cinq autres, ils sont dans le système immunitaire. Ou dans la spermatogénèse. Donc une telle vitesse d'évolution, elle peut être soit positive, c'est-à-dire adaptative, c'est-à-dire qu'elle peut avoir apporté un avantage, elle peut aussi dire qu'il y a un relâchement complet de la sélectivité, c'est-à-dire que ce gène n'a aucun intérêt et donc il peut muter autant qu'on veut. Mais si on regarde les séquences de part et d'autre, on a pas mal d'arguments pour dire que en fait, c'est une évolution positive, donc adaptative. En fait, si c'était n'importe quoi, eh bien, on aura un polymorphisme beaucoup plus grand. Or, le polymorphisme génétique est relativement faible. Donc, pour les deux, pour l'exon 7, les deux mutations se sont fixées il y a environ 200 à 300 000 ans, et elles sont présentes chez les humains archaïques, c'est-à-dire qu'elles sont aussi présentes chez les Néandertaliens et chez les Denisoviens. Hein. Alors, je vous rappelle le scénario, il y a un groupe d'hominidés qui a quitté l'Afrique il y a 200 à 400 000 ans, et il a divergé en deux groupes. Il y a un groupe asiatique, hein, les Denisoviens, et un groupe européen, les Néandertaliens. Puis, 140 000 ans plus tard, il y a donc environ 60 000 ans, Sapiens sort à son tour d'Afrique et envahit l'Europe avec un métissage limité avec les Néandertaliens, vous vous rappelez, essentiellement des mâles néandertaliens qui couchaient avec des femelles Sapiens, mais jamais le contraire. Comme je vous dis, je refuse de faire des hypothèses sur les raisons de cette asymétrie. Mais le plus important est que les deux mutations qui nous distinguent des chimpanzés se sont produites avant notre séparation avec les Néandertaliens et les Denisoviens. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils avaient ces deux gènes qui sont des gènes spécifiquement humains qu'on trouve chez l'humain moderne et chez l'humain archaïque. Alors, si on introduit la mutation humaine chez la souris, alors c'est évidemment, alors, on fait souvent ça, c'est-à-dire qu'on prend des différences entre l'homme et les Néandertal, et puis on l'introduit chez la souris. Donc on utilise la souris comme un tube à essai. Ouais. Évidemment, la souris s'est séparée de nous il y a 70 millions d'années, donc évidemment, il faut prendre ces résultats avec une certaine précaution malgré tout. Mais si on fait ça, on se rend compte que ça a des effets assez importants chez la souris. Je ne vais pas vous les rappeler tous, parce que il est déjà 6h03. Je suis à peine à la moitié du cours, mais enfin, c'est pas grave. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que si on fait ça, on voit que il n'y a pas de grosse différence chez la souris. Elle ressemble relativement à ce qu'il faut, quoi. Donc, là, c'est on introduit les deux mutations chez la souris. Donc, c'est la mutation qui diffère l'homme du chimpanzé. Et puis, on compare ça avec des souris hétérozygotes. Je vous expliquerai pourquoi ou pas, mais ça n'a pas d'importance. Alors que, voici ici une hétérozygote. C'est pour montrer que la mutation qu'on introduit chez la souris, elle n'introduit pas une inactivation du gène. Et vous allez voir pourquoi. Parce que, en fait, quand vous faites ça, ça c'est l'hétérozygote, il varie dans le sens inverse, au niveau par exemple de la synthèse de neuromédiateurs, hein, de ce qui se passe dans la souris dans laquelle on a mis les deux gènes humains. Donc en fait, le fait d'avoir introduit ces deux gènes humains n'abolit pas, si vous voulez, l'activité de FOXP2, mais lui donne une activité contraire de ce qu'on avait, ce qu'on a quand on inactive un des allèles. Et donc, vous pouvez regarder, ça, c'est des comportements de la bestiole. En fait, d'avoir mis des trucs humains, ça lui fait un coup. Et aussi, quand vous mesurez la synthèse de certains neurotransmetteurs, ici, la concentration de dopamine corticale. Donc, tout ça pour vous dire que ces mutations, elles ont une certaine importance dans le développement de la souris. Et d'ailleurs, si vous regardez ici, par exemple, vous introduisez le gène humain dans cette souris par transgénèse. Et vous voyez que ici, je pense que c'est au niveau du striatum, mais il me semble, je ne me souviens plus très bien, oui, c'est les median spinal neurons. Vous voyez qu'ils ont une arborisation dendritique plus compliquée. C'est-à-dire que morphologiquement, ces neurones sont plus compliqués. Et surtout, vous avez une augmentation de ce qu'on appelle la long-term depression, c'est-à-dire un phénomène d'apprentissage qui est plus fort quand j'ai les gènes humains, quand j'ai les deux mutations humaines. Donc, ce sont des mutations. Et de nouveau, je suis prudent, parce que c'est la souris, c'est 70 millions d'années. Mais ça veut dire que ces mutations ne sont pas neutres sur le plan ni de la morphologie, ni de la physiologie de mes souris. Et en plus, ça leur donne des changements sur le plan des compétences vocales. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Vous avez les références des articles pour aller les chercher. Mais finalement, les animaux humanisés, hein, ce qu'on appelle ça, c'est humanisé pour FOXP2, ont des différences en fait pour les paramètres qui ont à voir avec l'analyse des pics de fréquence. Hein. Donc, c'est vraiment aventureux hein, de comparer les vocalisations d'une souris au langage humain. Même si chez tous les mammifères terrestres, hein, vous avez des vocalisations qui sont créées par un souffle d'air qui vient des poumons et qui passe par le larynx et qui produit une vibration des cordes vocales ou active un soufflet aérodynamique comme chez la souris. Même si les humains ont des vocalisations innées, grognement par exemple, comme les souris, la plupart des vocalisations sont apprises, pas comme chez la souris, mais peut-être et en partie comme chez les oiseaux. C'est une question qui reste un petit peu en suspens, bien entendu, mais ce qui est important, c'est de voir que vous avez une différence quand même, que ces deux mutations ont des effets forts, en tout cas dans le tube ASS souris, sur la morphogénèse, sur les niveaux de neuromédiateurs, sur l'apprentissage synaptique, vu par la dépression à long terme. Et donc, probablement, on peut jouer un rôle dans la capacité motrice, hein, essentiellement, de sapiens, de contrôle hein, de l'appareil vocal et linguistique. Donc, je viens de faire allusion là, à l'apprentissage du chant chez les oiseaux, qui a des ressemblances assez fortes avec celui des vocalisations chez les humains, et qui engage les mêmes circuits, hein, les circuits des ganglions de la base, et leur modulation de l'énergie. Donc, si on supprime FOXP2 dans les ganglions de la base, striatum, en particulier des oiseaux chanteurs, ça affecte leur capacité d'imitation vocale. Et chez Sapiens, je vous l'ai dit, les porteurs d'un allèle muté de FOXP2 ont des modifications de la structure et de la physiologie du striatum, en même temps que des handicaps linguistiques et grammaticaux. Donc, on peut faire l'hypothèse que ces deux mutations dont nous sommes bénéficiaires, enfin bon, je pense, oui, aurait contribué à augmenter la finesse du contrôle moteur des muscles orofaciaux. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les méthylations différentielles et la façon dont en fait, notre système orofacial est aussi modifié hein, de façon épigénétique. Donc, vous avez des interactions entre des modifications génétiques, par exemple comme celle de FOXP2, des modifications épigénétiques qui vont vous modifier la forme de la bouche, la descente du larynx, l'histoire de l'osioïde, enfin tout ça. Et ces interactions font que, fondamentalement, nous sommes probablement capables de parler quand d'autres espèces, les chimpanzés, ne sont pas capables. Et pour les néandertaliens, il y a toujours ce doute, puisqu'ils ont la modification épigénétique, génétique, la même que la nôtre, les deux mutations dans FOXP2, mais d'un point de vue épigénétique, c'est peut-être un tout petit peu différent. Donc, je vais en rester là pour cette affaire. Et cette année, je vais faire l'impasse sur la question du déplacement des bords, hein, qui est Parce que vous savez, on est toujours dans cette question de l'agrandissement du cerveau. Hein. Les 400 cm3 d'un chimpanzé, les 1300 cm3 d'un sapiens ou 1400 cm3 d'un sapiens, qui est aussi une différence énorme par rapport au 1,23%. Là, on est dans les 400%, hein, c'est 4 fois plus, donc c'est quand même pas rien. Mais, comme je vous le disais dans un des cours, ce n'est pas uniquement un problème d'agrandissement du cerveau, le cerveau qui a cette taille-là qui devient comme ça, mais c'est aussi, évidemment, quand j'agrandis mon cerveau, le problème de déplacement des bords, c'est-à-dire j'agrandis, mais en même temps, je vais donner plus de place à l'avant et moins de place à l'arrière. Hein. Et ça, je vous renvoie évidemment au cours de l'année dernière, mais ce qui se passe dans le cerveau humain, c'est qu'il y a une place plus grande faite aux aires antérieures hein, par rapport au cerveau postérieur. Hein. Et ça, des manips par imagerie par résonance magnétique que j'ai décrite l'année dernière, donc je vous renvoie au cours de l'année dernière, suggèrent que ces modifications ont une base génétique, hein, avec au moins 4 grands domaines, le domaine frontal, au moins 4 grands domaines, le domaine frontal, le domaine sensoriel, le domaine temporal, et puis un domaine postérieur, qu'on pourrait dire un domaine visuel pour faire large. Hein. Et c'est une division grossière, évidemment, qui nous rappelle les expériences de génétique qui ont été faites il y a plusieurs années par l'équipe de Denis Soleri, qui démontrent que si on modifie l'équilibre entre deux facteurs de transcription, eh bien, on peut modifier les surfaces occupées par les aires antérieures ou postérieures. Hein. Donc ça, je vous rappelle ça. Oubliez ça, ce n'est pas la peine. Vous avez deux facteurs de transcription, un bleu et un rouge. Je ne dirai pas comment ça s'établit. Mais disons que le bleu, ce serait PAX6 et que le rouge, ce serait MX2, qui sont deux facteurs de transcription. Et vous voyez que pour un cerveau qui a la même taille, hein, si je supprime un de ces facteurs de transcription, eh bien, je vais augmenter l'avant au dépens de l'arrière. Et que si je supprime l'autre, ou si je diminue son activité, c'est un facteur de diminution de PAX6, je vais augmenter l'arrière au dépens de l'avant. Et là, vous voyez, c'est le système sensoriel. On voit que dans un hétérozygote EMX2, c'est-à-dire que j'ai retiré qu'un seul des gènes, vous voyez que le système sensoriel, qui est représenté ici, c'est la représentation des vibrisses sur le museau d'une souris, vous voyez qu'il est postériorisé. Et que le système visuel postérieur, il est diminué de taille. Donc en fait, il suffit, et ce que vous voyez aussi, c'est ça qui est important, c'est que la taille globale de mon cerveau n'est pas modifiée. Donc je peux augmenter la taille du cerveau, et ensuite je peux, par des mutations génétiques, ou par des mutations qui affectent l'expression de ces gènes, par exemple des régulations des promoteurs de ces gènes, ou des méthylations des promoteurs de ces gènes, où ils vont être moins exprimés d'un côté que de l'autre, eh bien je vais pouvoir modifier le bord, et par exemple, donner de l'avance, avantage à la région antérieure par rapport aux régions postérieures. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je voudrais quand même pouvoir en terminer avec les aspects génétiques essentiels, et en particulier ceux qui sont liés, comme je vous le disais, à l'instabilité du génome. Hein. Et donc, je reviens à mes affaires de transposons. Et je terminerai dans 15 jours en revenant sur la physiologie et la morphogénèse. Mais je ne suis pas sûr que j'aurai le temps. Peut-être que je resterai sur les transposons. Je suis désolé, mais bon, je verrai. Hein. C'est une affaire qui est vraiment importante si on veut vraiment comprendre la différence entre... Il faut comprendre d'abord l'évolution en général, hein. Vertébré, invertébré, tout ce que vous voudrez, mais aussi si on veut comprendre ce qui nous sépare... les singes que nous sommes aux singes qu'ils sont. Hein, pas les mêmes singes, tout à fait. Donc, je vous ai parlé depuis le 2 octobre, hein, quand on a commencé le cours, de délétion, duplication, de mutilation. J'aurais pu insister, je ne l'ai pas fait, sur les épissages alternatifs. Et en fait, tous ces événements qui ont à voir avec l'expression génétique, donc la régulation de l'expression des gènes, pas les gènes eux-mêmes, mais la régulation de leur expression, évidemment, sont fortement influencés par les insertions d'éléments transposables. Hein. Donc, dans la mesure où le génome est composé pour 45% hein, chez Sapiens de tels éléments, même fossilisés, il est probable, comme cela a été démontré pour le méthylome du sperme, que cette histoire de mobilome hein, a joué énormément dans l'évolution des espèces et tout particulièrement dans les voies séparées, prises d'un côté par les humains et de l'autre par les primates non humains. Au premier rang desquels, bien sûr, on va mettre les chimpanzés. Ils sont quand même nos cousins les plus proches. Ça, c'est pas négociable. Dans cette optique, je crois qu'il est intéressant de se penser sur la façon dont les transposons modifient la physiologie du génome et sur les insertions qui se sont produites depuis notre séparation d'avec ces lointains cousins. Et c'est ce sur quoi je vais maintenant m'engager. Donc, je vais commencer par une revue extrêmement simple, que vous avez déjà vu une image de ça. C'est la revue donc, de Kazazian. Donc, de nouveau, on a les différentes classes de mutations, de transposons. Je ne vais pas revenir là-dessus. Là, c'est un glossaire. Et donc, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, je les engage à aller prendre cette référence sur le site et de regarder le glossaire, qui est évidemment important si on veut creuser un tout petit peu. Alors, comme je disais, les transposons ADN, quand ils sautent, ils se décrochent, ils laissent un espace qui se referme, bien entendu, et ils se vont ailleurs. Donc, en fait, même s'il y a beaucoup de transpositions de transposons ADN, ça n'augmente pas la taille du génome, parce que ce que je perds d'un côté, je le gagne de l'autre, ou ce que je gagne d'un côté, je l'ai perdu avant. Donc, ça, c'est autre chose. Mais les autres, évidemment, ils ont. On ne s'étonnera pas, c'est seulement 3% du génome. Ils sont quelque part par là. Mais les autres, évidemment, il y a un phénomène d'amplification qui est lié au fait que je suis transcrit, puis rétrotranscrit, puis inséré. Donc, ce qui, en fait, est une sorte de multiplication de ce gène, c'est-à-dire que c'est un envahissement du génome jusqu'à occuper 45% du territoire. Donc, je vous ai dit que sur le placenta, j'en ai parlé, je ne vais pas vous embêter et répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, le mécanisme de rétrotransposition, je vous l'ai donné déjà il y a un certain temps, tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous ai dit que les rétrotransposons SINES, il n'y a que le LINES qui soit autonome, donc en fait, les autres utilisent les protéines ORF1 et ORF2 des LINES. Et puis, je ne répète pas le nombre de mutations, 1 sur 20 méiose pour ALU, etc. Alors, les éléments mobiles, et ça c'est un point intéressant, ont d'abord été identifiés, caractérisés comme des agents mutagènes, à l'origine de maladies. Par exemple, quand vous sautez, vous insérez dans un gène, que vous interrompez pour le gène, si ce gène est intéressant sur le plan physiologique, vous allez provoquer une maladie. Et donc, par exemple, il y a un L1 tronqué qui a été découvert. Alors, tronqué, pourquoi ? Parce que quand je fais ma reverse transcriptase, c'est-à-dire que je prends mon ARN ici et puis que je reviens de l'autre côté pour faire un brin d'ADN qui va s'insérer dans le génome, des fois, je m'arrête avant la fin. Je tombe. Et donc, je ne transcris pas entièrement mon ARN. Et donc, je fais un ADN tronqué. Mais comme la région 5' est extrêmement importante pour la transcription, ce truc-là, il va être inséré, mais il va être inséré pas complètement, ce qui fait que je vais avoir un morceau qui va devenir inactif. Donc je peux insérer un élément comme ça, qui peut être un élément tronqué, dans un gène, pas forcément tronqué, mais par exemple, il y a un gène qui code pour le facteur 8, qui est donc impliqué, dont la mutation a un rôle à jouer dans l'hémophilie. Et donc, il y a un élément tronqué dans le gène de facteur 8, dans un cas d'hémophilie qui a été découvert. Il y a d'autres insertions pathologiques de ce genre qui ont été découvertes depuis, y compris dans les tissus somatiques. Il y a un truc dans le cancer du côlon, par exemple. Et il y a aussi des maladies du système visuel. Donc, dans le cancer du sein. Voilà. Donc, c'est le pourcentage de maladies qui sont liées comme ça à des insertions illégitimes d'éléments transposables est relativement faible chez l'homme, c'est de 0,1% à peu près, environ. Mais il est très important chez la souris, les souris aussi peuvent être malades, de l'ordre de 10%. Donc ça, pourquoi ? Évidemment, c'est lié au fait que chez la souris, il y a 3000 transposons actifs, et chez Sapiens, il y a une centaine de transposons actifs. Donc on est quand même beaucoup moins mobile au niveau du génome, nous, Sapiens, que les souris. Donc, En plus, chez les humains, il y a plein de L1 complets, de transposons complets. Il y en a 3000 hein, qui sont complets, mais ils sont rendus inactifs par des mutations non-sens. C'est-à-dire qu'il y a des mutations dedans qui font qu'ils sont rendus inactifs. Alors, il y a aussi différents types de classes hein, représentées, et vous verrez ça un tout petit peu plus tard. Dans cette diapo, je vous ramène un tout petit peu sur les trucs, c'est une diapo simplifiée qui vous rappelle un petit peu comment les choses fonctionnent, mais je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, puisque, au fond, ça ne ferait que répéter ce que j'ai déjà dit. Donc, pour en venir à l'évolution des génomes, il y a un article relativement récent de Cordeau et Badzer qui donne l'essentiel des informations. D'abord, il rappelle d'abord que du fait de leur activité et accumulation pendant les 10 derniers millions d'années, l'impact des éléments transposables sur l'évolution des génomes et des génomes des primates est considérable. Aujourd'hui encore, hein, nous venons de le voir, je vous l'ai dit, hein, on estime que L1 et ALU produisent une nouvelle insertion toutes les 20 naissances à peu près. Dans la lignée germinale, avec passage à la transcendance, ou dans les lignées somatiques. Les insertions ALU chez Sapiens se sont produites massivement. Il y a beaucoup, mais le pic d'insertion ALU, c'était bien avant que Sapiens n'existe, c'est il y a environ 40 millions d'années. Et le pic d'insertion des lynx, c'est il y a entre 12 et 40 millions d'années. C'est-à-dire que c'est un peu plus récent. Alors, une des premières conséquences de ça, évidemment, c'est l'augmentation de la taille des génomes. Il y a 750 millions de bases qui proviennent de séquences L1 et ALU, soit entre un tiers et un quart du génome. Simplement de séquences ALU. Donc vous voyez que cette activité-là, ça, un peu comme le cerveau a augmenté, le génome a aussi augmenté énormément au cours de l'évolution. Et pour les 6 millions d'années d'évolution humaine, depuis qu'on s'est séparé d'avec les chimpanzés, les pannes plutôt, il y a 2000 L1, 7000 ALU et 1000 SVA qui se sont accumulés, soit environ 8 millions de paires de bases. Et ça, c'est chez nous, c'est nouveau. Il s'en est passé aussi chez le chimpanzé, ce qui ne fait que nous faire diverger un tout petit peu plus rapidement. Avec évidemment des variations interindividuelles, des polymorphismes interindividuels, qui sont des marqueurs intéressants quand on fait l'histoire démographique de l'humanité. Alors, ces insertions, je vais vous donner encore 2-3 minutes parce que je vous ai dit qu'il faut que je parte très très vite ce soir. Ces insertions provoquent une instabilité locale des génomes, des réarrangements génomiques, et sont aussi à la source d'innovation génétique. Il n'y a pas que du négatif quand ça change. Et donc, il y a des exemples d'instabilité génétique, je peux vous les montrer ici. Par exemple, une insertion ici, si mon transposon s'insère dans ce gène, il va faire une mutation. Donc, il va le muter, ça c'est clair. Donc, je l'ai dit, on connaît 65 maladies héréditaires, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis, qui ont été induites de cette façon, dont certaines formes d'hémophilie ou de myopathie. ORF2 peut induire des cassures double brin, bien sûr, ici, là, c'est une endonuclase, donc elle va faire une cassure double brin. Mais aussi, on peut avoir des insertions qui sont indépendantes de l'endonucléase, et donc ça vient réparer d'une certaine façon. Au niveau des réarrangements génomiques, une délétion peut être créée par l'insertion d'un élément transposable. Alors, la taille des délétions est très variable, depuis une paire de bases, simplement, jusqu'à 130 000 paires de bases, environ. La moyenne des délétions créées par une insertion, c'est de 800 paires de bases. Donc, on estime qu'au cours de l'évolution des primates, il y a eu 45 000 délétions qui étaient induites par insertion, qui ont supprimé près de 30 millions de paires de bases dans le génome. Donc, vous voyez, on en gagne, et puis on en perd. Donc, en fait, l'idée qu'il faut garder, enfin, l'image qu'il faut garder, c'est d'une très grande, au fond, instabilité du génome liée à l'activité de ces parasites génétiques, d'une certaine façon, que sont les éléments transposables. Donc, alors, on a aussi des innovations génétiques, par exemple des transductions, qui peuvent conduire à la duplication de séquences codantes, et ça, c'est aussi très important, qui sont présentes soit dans la région 3', soit dans la région 5'. Et puis, vous avez les rétrotranscriptions de messagers. Et ça, c'est un truc que je n'ai pas mis ici, mais vous avez un messager, il est rétrotranscrit, et ça va faire des pseudogènes, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi des gènes dupliqués, hein, en supposant que l'insertion se produit au niveau très proche d'un élément régulateur, ben vous allez avoir la création de nouveaux gènes via des mutations du gène dupliqué. Donc vous avez le gène, je duplique, et ce gène dupliqué, il va muter. Comme le gène d'origine est toujours là, sa fonction est appliquée, mais le gène muté, il peut acquérir de nouvelles fonctions. Par exemple, je vous parle souvent d'OTX2, d'OTX1. OTX1 est probablement un gène qui est venu d'une duplication d'OTX2. Donc, il y a un cas dont je vous ai beaucoup parlé l'année dernière, mais je reviendrai peut-être dans ma conclusion dans 15 jours. C'est, et je vous en ai parlé tout à l'heure, j'y ai fait allusion, c'est la duplication de SGARB2, hein, suivie de sa troncation et d'un effet de ralentissement sur le développement du cortex. Il semble qu'il y ait un nouveau rétrogène soit né tous les millions d'années. Ce n'est pas beaucoup. Sur 65 millions d'années, ça ne fait jamais que 6. Hein. Non, 65 millions, ça ne fait jamais... Non, ça ne fait jamais que 6 depuis qu'on s'est séparé des chimpanzés. Donc, aussi, ce qui se passe, c'est que quand j'ai un élément transposable qui se fixe dans un gène, il peut être exonisé, c'est-à-dire qu'il peut se transformer en exon. C'est-à-dire qu'il peut introduire, il peut modifier la protéine par exonisation quand il est introduit dans un intron. C'est-à-dire que j'ai les exons, j'ai les introns. Normalement, j'ai un splice qui fait que mon intron saute. Mais si j'ai un TE, un élément transposable qui se met là-dedans, il peut être reconnu comme un exon. C'est-à-dire qu'il va être traduit en protéine. Donc je vais modifier la structure de ma protéine. Et ça fait partie aussi de l'évolution de la structure des protéines. Je vous rappelle aussi, pour mémoire, évidemment, que la méthylation des CPG joue un rôle important et donc que la méthylation des CPG participe à la répression des éléments transposables. Les CPG des promoteurs de L1 sont, les lines, sont hautement méthylés, hein, et un tiers des CPG humains sont dans des séquences ALU. En fait, il y a une nécessité de réprimer cette activité. En même temps, vous allez voir qu'elle a été domestiquée d'une certaine façon, c'est-à-dire que elle est utile. Hein, et ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas le temps de vous parler aujourd'hui, mais, parce que je vais arrêter maintenant, mais c'est quelque chose dont je vous parlerai parce que, au fond, il y a toujours dans l'évolution des choses qui sont positives, des choses qui sont négatives. Et en fait, ces éléments transposables qui peuvent être des destructeurs, hein, ils vont introduire des mutations, ils vont introduire des cassures. En même temps, ils sont aussi physiologiquement actifs. Ils ont aussi un intérêt, et je vais donner encore un tout petit paragraphe, et je reprendrai la semaine prochaine sur l'intérêt. Donc, ils jouent un rôle important dans le développement et la physiologie des organismes actuels. Hein. Donc, leur activité... Par exemple, je vous dirais par exemple, je vous avais raconté, je ne vais pas vous montrer ça parce que c'est trop compliqué. Ça, c'est une exonisation, hein, je vous rappelle. Donc là, par exemple, ce transposon s'est mis dans un intron entre deux exons, et puis tout d'un coup, il produit un nouvel exon. C'est-à-dire que ça va me donner une complication de ma protéine. Hein. Donc, c'est juste un exemple. Donc, ces éléments transposables, ils sont normalement exprimés au cours du développement. Par exemple, ici, vous pouvez voir, c'est que vous avez dans le placenta, vous avez certaines expressions, vous avez des expressions dans le cerveau embryonnaire, hein, et puis ensuite vous avez des activités aussi dans le cerveau adulte. Et par exemple, L1 est plus exprimé, c'est un line, est plus exprimé dans le cerveau adulte que dans la peau, hein, donc ça va être différent entre les organismes. Et ici, vous avez quelque chose sur lequel j'avais attiré votre attention l'année dernière et encore cette année. C'est que dans les cellules souches, hein, vous avez de la rétrotransposition, hein, donc souche neurale. Donc, je vais arrêter là. Je reprendrai, je résumerai la semaine prochaine un tout petit peu ça parce que c'était un cours compliqué, effectivement. J'en ai conscience. Donc, je vais vous le simplifier pendant les 15 jours qui viennent, faire un petit résumé simplifié de cette affaire. Et je repartirai sur le rôle physiologique, de toute façon, des lines, parce que il y a un rôle physiologique qui est important. Et puis, vous voyez, j'ai quand même un petit peu de retard sur le cours, mais je ne veux pas gâcher la chose en l'expédiant. Et donc, la semaine prochaine, je vous ferai un petit résumé pour que, pas dans, dans 15 jours, un petit résumé pour que les choses, parce qu'on accueille la FRM la semaine prochaine, donc on m'a privé d'amphi. Tant pis pour l'envie d'amphi. Voilà. Mais dans 15 jours, d'abord, vous aurez eu le temps de réfléchir. Vous l'aurez eu sur le site. Éventuellement, je pourrai répondre à certaines questions et essayer de vous éclairer. Et puis, nous terminerons sur la fin des transposons. Et si j'ai le temps, je reprendrai des exemples de physiologie pour montrer comment des modifications qui sont créées par des éléments transposables peuvent se traduire en modifications au niveau cérébral et rendre compte des différences qu'on peut avoir entre les humains archaïques et les humains modernes. Mais pour ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, parce que les archaïques n'existent plus, même s'ils ont leurs défenseurs, entre les chimpanzés et nous. Et vous verrez pourquoi nous ne sommes pas des singes comme les autres. Voilà. Je vous remercie.